On est toujours dans notre épître aux Romains, chapitre 12, et on va lire aujourd'hui à partir du verset 6. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Donc on avait déjà vu ce verset la semaine dernière, mais on reprend de là. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toute votre force au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Sans viser à ce qui est trop haut, laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Seigneur, conduis-nous dans ces pensées et que ce que tu as préparé pour chacun de nos cœurs, pour chacune de nos vies, pour nous conduire plus loin sur ce chemin que tu as tracé, sur lequel tu nous accompagnes, que nous puissions progresser encore avec toi et les uns avec les autres ce matin. Amen. Beaucoup, beaucoup de choses dans ce passage, et c'est toujours un dilemme de se dire, est-ce que je m'arrête sur un de ces mots et on en parle pendant un long moment, ou est-ce qu'on essaie de voir l'ensemble? On pourrait faire l'un et l'autre, hein. Mais je voulais ce matin essayer plutôt de le survoler. Ça ne veut pas dire qu'on va rester à la surface. Et on pourrait presque résumer tout ce passage. On est dans le contexte des dons que Dieu nous a donnés. Ça suit ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et puis, il y a toute une liste de dons qui sont donnés et puis de conseils pour comment les pratiquer. Et c'est vrai que si on s'arrêtait sur chacun et sur chaque chose, ça prend beaucoup de temps. Ce serait intéressant, mais c'est difficile à faire. Mais je voudrais surtout essayer de sortir quelque chose de général. Vous connaissez la phrase, on choisit ses amis, mais rarement sa famille. On ne choisit pas ses dons. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses dons. Moi, j'aurais aimé être un super danseur, ça passe pas, quoi. Dans ma tête, ça fonctionne, mais le corps suit pas. J'ai beau essayer, re-essayer, je vois ce qu'il faut faire, je le comprends, c'est tout là-dedans, la musique y est, mais le corps, il n'y arrive pas, quoi. Okay. Donc c'est un don que j'aurais aimé avoir, que j'ai pas. Dieu m'en a donné d'autres, on fait avec. On ne choisit pas ces dons. Par contre, je suis responsable de ce que je fais des dons qui m'ont été donnés. C'est quelque chose de triste qu'on peut noter autant chez les non-croyants que chez les croyants, ça n'a rien à voir, de voir qu'on peut, d'une certaine façon, gaspiller sa vie à essayer d'être ce qu'on n'est pas. Si le but dans ma vie, ça avait été d'être danseur et comptable, vous imaginez l'enfer. Incapable de retenir de chiffres, incapable de bouger correctement. Mais mon but dans la vie, pour une raison obscure, serait d'être un grand danseur et le meilleur comptable. Ça serait une catastrophe. Heureusement, j'ai renoncé très jeune à ces deux choses-là. Enfin, une des deux ne m'attirait pas du tout. Mais ce qu'on a, on doit le développer. On a cette responsabilité. Parce que même si on a reçu un don dans un domaine, ça n'enlève pas le fait de devoir le pratiquer, l'exercer, s'y former, etc. Hein. Coralie, quand on s'est rencontrés cette semaine, partagée, et puis c'est elle qui a demandé qu'on prie pour elle ce matin parce qu'elle fait cette formation. Je trouve ça extraordinaire. Elle a un don dans ce domaine-là parce qu'elle a de l'empathie, parce qu'elle aime les gens, mais elle ne s'est pas contentée de dire, oh ben j'aime bien les gens, ben, quand je verrai les gens, je leur tape un peu sur l'épaule et puis je leur dis ça va. Non. J'ai ce don-là, comment je peux le mettre en valeur? Alors elle a commencé une formation. Et ce que j'ai aimé dans notre rassemblement de ce matin, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Mais justement, c'est qu'il y avait plein d'illustrations de ce que j'essaie de vous partager. Quand on fait quelque chose, Dieu demande qu'on le fasse de tout notre cœur. J'aime voir Pascal jouer du piano. On voit que c'est pas quelque chose qu'il fait parce qu'il est obligé, parce qu'il faut faire. Parce qu'il est sur son piano et quand il joue du piano, il joue du piano. C'est le sens. Vous avez vu les versets? On dirait que Paul, dans quelques-uns de ses versets, pendant un moment, s'est pris pour la palisse. Hein? Que celui qui enseigne, enseigne. Que celui qui encourage, encourage. Que celui qui donne, bon, donne sans arrière-pensée. Hein? Mais il dit des choses qui ont l'air ben, évidentes, quoi. Ça veut dire que celui qui joue du piano. Mais c'est pas évident. On peut jouer du piano sans jouer du piano. Hein? Joue du piano. Hein? Ou je joue du piano, je suis là tout dans ce moment-là et je le fais. Je peux présider. Bonjour, nous sommes contents de vous voir ce matin. Bon, nous allons passer au point suivant. Allez. Ou je peux présider comme ami a présidé. Il est là, il n'y a rien d'autre qui existe. Il y a ce moment-là, lui et nous, Dieu, et il est dedans à fond. Je peux aller en Afrique faire des puits. Ben ouais, je vais en la puits, on fait un trou, il y a de l'eau, ça va, on repart. Ou je peux faire des puits comme maintenant on fait des puits. Et je pourrais continuer comme ça, c'est pas pour vous comparer les uns aux autres, puisqu'encore une fois, vous n'avez pas choisi vos dons. Hein. Mais quand on fait quelque chose, on le fait. J'aime voir Geneviève à la sono, avec tous ces boutons devant, là, moi j'y comprends rien. Et. Non? Au-delà du fait que c'est plus agréable à regarder que quand il y a des hommes barbus là-bas derrière et tout. Non, hein? Mais. Elle y est, c'est pas juste, bon, il y a personne pour le faire, je vais remplacer quelqu'un, alors, ouais, volume, hein, oui, bah, hein. Non, elle veut comprendre, elle y est, le retour, le truc, je sais pas comment elle fait, mais elle le fait, hein. Et c'est super de faire ça. Ce que Paul dit ici, c'est, vous avez tous besoin les uns des autres, on l'a vu des semaines précédentes, vous êtes le corps de Christ, donc, des différents membres attachés ensemble. Ce que Dieu vous a confié, faites-le. Hein. J'aime voir Sébastien jouer de la batterie, même s'il est un peu à côté de ses pompes. Pour ceux qui ne sont pas présents pour l'enregistrement, c'est juste parce qu'il enlève ses chaussures pour jouer. Mais, non. Hein. Non, mais moi, il n'y a rien qui me réjouisse plus que de voir quelqu'un faire ce qu'il fait de tout son cœur parce qu'il sait que c'est ce qu'il a à faire. Alors, bien sûr que dans nos vies, c'est pas tout n'est pas comme ça tout le temps. Hein. On doit gagner nos vies, il y a des activités qui ne nous plaisent pas, il faut les faire. Je pense, bon, faire la vaisselle, on peut y donner du sens, mais c'est pas passionnant. Ramasser les crottes de son chien, il faut le faire, c'est pas. Hein? Ah, je ramasse. Non, on le fait. Il y a plein de choses comme ça. On doit les faire, on les fait. Hein? Mais ce qui donne du sens à nos vies, c'est que Dieu nous a donné des dons, nous a donné des capacités, nous a donné une personnalité, nous a donné d'être ce que nous sommes. Mais pas juste pour que, ouais, ben voilà quoi. Hein. Ou si je suis très doué dans un domaine, ben du coup je peux le faire sans travailler. Ça c'est le piège hein, pour les gens très doués. Non, si tu es très doué, tu as une plus grande responsabilité que les autres, parce que Dieu nous compare pas les uns aux autres. Simplement, il y a une course pour chacun d'entre nous. Hein. Paul le dit de façon extraordinaire. Hein. Il dit, je me moque, je paraphrase, hein, mais je me moque de ce que vous pensez de moi. Et je ne suis même pas intéressé par ce que je pense de moi. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et je cours la course que Dieu m'a fixée. Et à la fin de sa vie, il regarde derrière, il se dit, j'ai couru la bonne course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il ne dit pas, j'ai prêché mieux que Pierre, plus que Étienne, moins que l'autre, plus que si. Moi, j'ai implanté 36 églises, lui 35, ouais, j'ai gagné. Non, j'ai ma course. Et je l'ai couru au mieux que j'ai pu, avec d'énormes erreurs, avec des chutes, avec des gamelles, avec des trucs tordus, des machins à côté. Tant pis, on se relève, on continue, on repart. mais il court sa course. Mais ce n'était pas réservé à Paul, Pierre ou deux, trois fanatiques. Hein. C'est pour tous. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Comment je peux le vivre et le mettre au service des autres? Parce que c'est là que ça prend toute sa place. Et puis ça veut dire aussi que si on fait tout ça, bien sûr, je vais donner ce que j'ai de meilleur pour les autres, mais les autres vont aussi m'offrir ce qu'ils ont de meilleur. Et de toute façon, quand je fais ce pourquoi Dieu m'a donné des dons et que je le fais de tout mon cœur, c'est l'endroit le plus proche sur Terre de ce que les hommes appellent le bonheur. Le bonheur n'existe pas sur Terre, mais la satisfaction la plus proche de ça sur Terre, c'est quand je fonctionne dans ce pourquoi j'ai été créé et qu'en plus, je le travaille, je le développe. Hein. Dans la liste des dons, ici, il y a l'enseignement, par exemple. Il y a des gens qui sont doués pour enseigner les autres. Mais si on le fait, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut s'y jeter dedans. Et puis, encore une fois, les dons que Dieu nous donne peuvent évoluer au fil de nos vies. On peut en avoir plusieurs, on peut en avoir moins. Pendant certaines périodes, on va développer certains dons. À d'autres périodes, on le fait moins. Hein. Moi, je me rappelle, j'ai eu une période dans ma vie, je devais enseigner entre 15 et 20 heures par semaine. On était en Roumanie. Je faisais presque que ça. Je passais des heures à étudier, des heures à enseigner. C'était passionnant. J'adorais ça. Alors c'est vrai que pendant ce temps-là, ben, je faisais moins d'autres choses, évidemment. Mais on est de tout notre cœur. Je donne souvent cet exemple, mais pour moi il est frappant parce que c'est un domaine qui me touche. Je ne suis pas du tout un technicien, j'aime pas la mécanique, c'est froid, ça coupe, s'il y a de l'huile, c'est gras, c'est désagréable. Donc c'est pas un domaine qui m'attire. Mais quand je visite l'atelier d'Eric, il savait que j'allais parler de lui, j'ai l'impression que j'aurais pu aimer être décolleteur. C'est pas vrai, hein, mais... Mais avec lui, j'aurais pu aimer. Quand on le voit dans son atelier, on se dit, quand Dieu a créé Eric, il pensait déjà au décolletage, quoi. Pourquoi? Il ne le fait pas bêtement pour que sa machine tourne et pour gagner juste des sous. Bien sûr qu'il le fait aussi pour ça. C'est pour trouver l'idée géniale qui fait que je vais pouvoir faire le truc qu'on ne peut pas faire. Et quand il le trouve, il est tout seul dans son atelier, il est soumis de l'oreille à l'autre, dans le bruit, dans sa graisse, il est heureux. Mais pourquoi? Dieu lui a donné une intelligence pour ça, il faut le faire. Hein. Mais c'est vrai aussi dans tout le reste. Dieu vous a donné un don pour enseigner. Enseignez, étudiez des heures et des heures, creusez, faites-le. Ne dites pas, il n'y a pas assez d'enseignement dans cette église. Fais-le, tu as un don pour ça, vas-y, fais-en un plus. Hein. Et puis c'est pareil pour tous les domaines. Il y a des gens qui ont un don pour encourager, on a vu, pour voir les autres, pour... Il y a des quantités de dons. Puis c'est pas du tout une liste exhaustive. Déjà, rien que dans la Bible, il y a beaucoup d'autres listes qui sont différentes, hein, qui complètent celle-là. Et puis, même si on met toutes les listes de la Bible, ça se combine autrement. Hein. Et il faut qu'on arrête de se dire, ah, oh, pourquoi j'ai pas ce don-là? Ah, oh, j'aimerais tellement avoir celui-là. Hein. Oh, j'aimerais chanter comme lui, danser comme lui, jouer du piano comme l'autre, prêcher comme lui, présider comme... Peut-être à 15 ans, on peut se poser des questions, mais il y a un âge où on doit se dire, hey, je suis ce que je suis, ça ne va pas changer. Hein? Par contre, ce que j'ai, qu'est-ce que j'en fais? C'est la parabole des talents, je ne vais pas la reprendre ce matin, mais ben, avec ce que j'avais, j'ai fait tout ce que je pouvais de tout mon cœur, quoi. Et Dieu ne juge pas sur les résultats. Simplement, il veut qu'on soit fervent. Hein? On a après toute une autre liste de qualifications. En ce qui concerne l'amour fraternel, soyez plein d'affection. L'amour fraternel, c'est super, c'est les relations entre nous. Ben, il y a un qualificatif ici, pas juste hey, bonjour, ça va, ouais, merci, j'étais content de te voir, au revoir. Non? Plein d'affection. Maintenant, plein d'affection pour une personne et plein d'affection pour une autre personne, ça se traduit différemment. Et ça aussi, c'est une question de don. Ouais, j'ai pu voir ça avec mes parents. J'ai mon papa qui, à mon avis, dans une autre vie, était suisse-allemand. Hein. Quand pourtant, il est dans une église plutôt charismatique. Quand tout le monde chante, danse et que lui, il est au sommet de la joie, chez mon père, ça donne quelque chose comme ça. Il est au sommet de la joie. Je l'ai jamais vu être autrement. Hein. Ma maman est dans le même contexte, elle a 80 ans passés aujourd'hui, hein, mais dans la même situation, dans l'église, elle va être. Et ils sont les deux pareils remplis de joie. ils sont différents et il faut pas que l'un devienne comme l'autre. Donc on n'est pas en train d'essayer de se dire voilà le standard comment il faut être. Vous êtes froid dans votre caractère, dans votre tempérament, vous avez le droit d'être comme ça, c'est pas un péché. Par contre, soyez plein d'affection. Mon père peut être plein d'affection, ça se traduit autrement, hein. Et ma mère l'est aussi, et ça se traduit autrement, et pour chacun d'entre nous. Donc vous voyez, c'est pas qu'on doit devenir quelqu'un d'autre, être tous pareils, surtout pas. Dieu a horreur de ça, et moi aussi. Pour une fois qu'on est d'accord. Par contre, on peut être plein d'affection, quel que soit notre tempérament, on peut être passionné, quel que soit notre tempérament, on peut être engagé, quel que soit notre tempérament, ça va se manifester différemment, l'interface n'est pas la même. Mais c'est la même réalité qui est derrière. Et Dieu veut ça pour son corps. Pourquoi ? Parce qu'il veut le meilleur pour nous. Verset 9. C'est intéressant parce que j'ai fait un survol d'une dizaine de traductions. Du coup, j'ai consulté une quantité de commentaires, pour ne pas vous dire des bêtises. Dans la plupart des traductions traditionnelles, il était écrit « Que l'amour soit sans hypocrisie ». Bon, ouais, c'est un bon conseil. Il faut aimer sans être hypocrite. Mais la semeur a attiré mon regard parce qu'elle traduit « L'amour ne sait pas mentir ». Tiens, c'est bizarre. J'ai jeté un coup d'œil dans le texte original. Effectivement, il n'y a pas de verbe dans cette petite phrase dans le texte original. Il y a juste deux mots côte à côte. L'amour, et ça parle de l'amour de Dieu, ça c'est clair par contre, et dans le contexte, c'est par le mot choisi. Et à côté, un mot qui veut dire « sans hypocrisie », effectivement, sans mensonge donc, hein. L'amour sans mensonge. Alors, on peut le comprendre d'une façon ou d'une autre, c'est vrai. On peut y dire, puisqu'il faut rajouter un verbe, que l'amour soit sans hypocrisie. Mais j'aime la traduction du semeur parce qu'il me semble qu'elle est plus en cohérence avec le reste du texte et des écritures en général. L'amour de Dieu s'entend, est sans hypocrisie. L'amour de Dieu n'a pas des efforts à faire pour être sans hypocrisie. Moi, je dois le recevoir, cet amour, parce que je ne le produis pas, je ne le fabrique pas. Hein. L'amour divin est toujours un produit d'importation. Où qu'on soit sur Terre, il n'est pas produit dans le cœur de l'être humain. On doit l'importer. Il vient du cœur de Dieu, toujours, toujours. Donc là, à ce niveau-là, il y a égalité parfaitement. Il n'y a pas des gens qui sont plus doués pour recevoir l'amour de Dieu que d'autres. Ça se manifeste différemment. Mais personne n'est doué pour ça, naturellement. On doit tous aller à la croix, au pied de Christ, savoir que c'est à cause de son œuvre, à cause de sa grâce, Seigneur. Donc c'est « j'ai besoin de ton amour ». Quand cet amour nous remplit, il est sans hypocrisie. Et c'est lui qui est à l'origine de tout le reste. L'amour est sans hypocrisie, ou l'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne, et là il continue sa liste. Et là on a deux éléments qui sont importants et qui s'équilibrent, pas 50-50 encore une fois, mais toujours l'équilibre biblique, un double 100%. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Avoir le mal en horreur, c'est pas se promener avec une épée, même si c'est une épée de verset biblique, pour couper la tête au mal partout où on le voit, surtout chez les autres. C'est pas de ça que ça veut dire. Pas du tout, du tout, du tout. Ayez le mal en horreur, c'est que l'amour de Dieu vienne produire en nous une sainte colère contre le péché sous quelque forme qu'il soit. Jésus a manifesté cette caractéristique dans sa vie à maintes reprises. La fois la plus connue, la plus caractéristique, c'est lorsqu'il rentre dans le temple et qu'il voit des gens qui font du business avec la relation avec Dieu. Qui vendent des trucs, etc. Mais c'est sous couvert aujourd'hui, excusez-moi, mais aujourd'hui et dans la culture de ce beau pays, ces marchands-là, ils seraient adorés, hein. On les aimerait. Hein. Ils arrivent à rendre le christianisme rentable. Quoi de mieux ? Le paradis pour un Suisse chrétien. Jésus est en colère parce qu'en marchande quelque chose qui ne se marchande pas, la relation avec Dieu, c'est Christ qui a payé le prix de sa vie, enfin, il allait la payer. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Il leur dit pas, écoutez, il faudrait une commission qui réfléchisse à l'éthique de ce qui se passe dans le temple. Parce que franchement, c'est pas très très bien. Il prend des cordes, il fait un fouet, il casse les tables, il renverse tout, il met tout le monde dehors, il pique une crise. Pas une crise de folie. une crise de sainte colère. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Pensez à ça, ce même Jésus, il est à table, il y a une prostituée qui est là, il y a une qui pleure sur ses pieds, qui caresse les pieds, tout ça. Aucun problème. Il est avec quelqu'un qui collabore avec l'envahisseur, qui se fait de l'argent sur le dos de ses frères, en collaborant avec les Romains qui ont envahi le pays. Jésus mange avec lui, aucun problème. La vie de cet homme change après, mais il mange avec lui sans commentaire, sans faire de reproche. Et on pourrait continuer, la liste est longue. Hein. Pourquoi Jésus se met en colère dans cet endroit-là? Parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Tous les êtres humains sont pécheurs. Jésus ne se met pas en colère contre les êtres humains parce qu'ils pêchent. Sinon, il serait en colère du matin au soir, pendant l'éternité, contre tous les êtres humains. Le mal, c'est autre chose. Le mal, c'est lorsque on déforme ce que Dieu a dit, lorsqu'on vend ce que Dieu offre. L'apôtre Paul a l'équivalent de la colère de Jésus dans le temple. Ça s'appelle l'Épître aux Galates. On l'étudiera prochainement. L'Épître aux Galates, c'est un coup de gueule, excusez-moi, mais et le langage dedans est violent. Hein. Nos traducteurs, ils ont été gentils. Hein. Dans l'Épître aux Galates, Paul il dit à des docteurs de la loi, des gens respectables, hein, qu'ils soient castrés et qu'ils aillent en enfer, par exemple. Il dit des choses comme ça. C'est violent. Hein. Pourquoi ? Ayez le mal fortement en horreur. Le mal, par excellence, c'est quand on veut vendre ce que Dieu donne. Ça, c'est ce qui met Dieu en colère. Hein. Les autres situations où il ne peut plus être à côté de ses pompes. Les autres situations où Jésus s'est mis en colère, c'est lorsqu'il était avec les pharisiens. Mais ce n'est pas que Jésus n'aimait pas les pharisiens. Carrément à côté de ses pompes. On vous aime. Merci. Mais Jésus était en colère. Pourquoi ? Les pharisiens ne sont pas des plus grands pécheurs que les prostituées. Simplement, une prostituée ou une femme adultère ou un collaborateur avec l'ennemi, c'est quelqu'un qui vit dans le péché personnel, il faut qu'il se repente, qu'il soit pardonné. Les pharisiens donnaient une fausse représentation de Dieu. Hein. Je ne citerai personne pour ne pas faire de politique ou de polémique, mais on peut penser à des gens. Hein. Nous combattons, mais c'est au nom de Dieu. Hein. Oui, bien sûr. Ça, c'est ce qui met Dieu en colère. Donc, ayez le mal en horreur, sous toutes ses formes, et en même temps, attachez-vous fortement au bien. De la même façon que les dons ne vont pas se développer sans que je fasse quelque chose, sans que je m'y mette, sans que je les prenne à bras le corps et que je dise « Dieu m'a donné ce don-là, dans ce don-là, je vais donner tout ce que j'ai. » Pas pour être meilleur que mon voisin qui a à peu près le même don. Pour moi et pour Dieu. Mais attachez-vous fortement au bien. J'ai des décisions à prendre sans arrêt. Vous auriez pu, avec le décalage horaire, dormir ce matin, vous avez choisi de venir, vous auriez pu, etc., etc., etc. On prend des décisions, on fait, on va, on décide, on apprend, on veut, et on doit avoir les deux choses en même temps. Cette haine du mal, pas des gens qui pêchent, mais du mal, et puis cet attachement au bien. Parce que mon cœur est naturellement porté vers le mal. Je peux avoir une journée extraordinaire aujourd'hui, vivre un moment ce matin fantastique. Dans demi-heure, dans un quart d'heure, dans cinq minutes, naturellement, mes pensées vont vers le mal. C'est comme ça, je suis comme ça. Alors, je dois haïr le mal, pas les gens, et je dois m'attacher fortement au bien. C'est une décision que je dois prendre, et je dois aller de l'avant avec ça. Et j'accélère un petit peu, mais j'arrive au verset 15, parce que je trouve qu'il est important. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Vous savez, j'ai des gens qui m'ont dit des fois, « Ouais, mais vous, là, toutes vos petites réunions de partage dans la semaine, c'est pour être à la mode. C'est parce qu'aujourd'hui, on fait comme ça, tout le monde s'exprime, etc. » Je suis désolé. C'est pas pour être à la mode. C'est dans la Bible, c'est un impératif, c'est un ordre dans la vie de l'Église pour le corps de Christ. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. C'est une expression, hein, mais comment vous pouvez vivre cette chose-là, même avec un groupe aussi petit que ce qu'on est ce matin? C'est pas possible. Ouais, un petit peu. On a appris le décès du frère de notre ami, on prie pour lui, mais c'est pas ça à partager. Bon, c'est une façon de le faire. Mais si je veux partager ce que j'ai sur le cœur, ce qui me blesse, ce qui me fait mal, ce qui me fait bien, comment je comprends la vie avec Dieu, j'ai besoin de moments de partage. peu importe les formes, nous on a essayé de le faire le mercredi soir chez Geneviève, le jeudi soir là-bas, l'autre mercredi à Vienne, le mardi après-midi ici, le jeudi après-midi ailleurs, et on pourrait inventer autant de formes qu'il faut. C'est une partie essentielle de la vie de l'Église. Ce n'est pas à la place de l'enseignement, ce n'est pas à la place de des moments de louange, ce n'est pas à la place de la vie de prière, mais c'est un des éléments importants qu'on a oublié ou qu'on n'en connaît pas. Alors maintenant, comme tout, si on prend et puis on dit la vie chrétienne, c'est que ça, non, ce n'est pas que ça. Il y a une place pour enseigner, il y a une place pour louer Dieu, il y a une place pour prier, il y a un endroit pour évangéliser, il y a... Mais c'est une chose qui est là. Hein. Partager la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Avoir de la communion, avoir de l'empathie, savoir ce que l'autre vit, être intéressé par l'écouter, en partager et dans tous les sens, c'est pas une option pour les chrétiens émotionnels. Et puis bon, je prends ce verset, on va pas faire la liste ce matin, c'est pas le seul verset sur lequel on base ça. Hein. Et puis surtout, pensez comment vivait Jésus. Stress incroyable, il n'avait que 3 ans pour tout faire. Vous imaginez? 3 ans pour faire tout ce qu'il avait à faire. Hein. Des journées de fou furieux, et il n'est jamais pressé. Jamais pressé. Il va quelque part, c'est urgent, on l'attend, il doit prêcher. Il y a quelqu'un au bord de la route, il s'assoit, il s'arrête. Les disciples derrière qui sont là, ils disent, tiens, rendez-vous à 18h15, franchement, là, tu... Il est assis, il discute. Pourquoi? Il y a un besoin là au présent et je vais passer à côté parce que Dieu attend de moi quelque chose dans 2 heures? Non, Jésus ne vivait pas comme ça. Il tenait ses engagements, il faisait ce qu'il avait à faire, mais il savait s'occuper de chaque situation qu'il rencontrait. Et c'était un être humain, il avait besoin de dormir quand même s'il avait un rythme soutenu. Il avait besoin de manger, de se reposer. C'est pour ça que des fois, il fallait qu'il parte sur une montagne. C'est pour ça qu'il s'est endormi dans la barque. Jésus s'est pas endormi dans la barque pour le plaisir de faire un miracle. Il s'est endormi dans la barque parce qu'il était épuisé, fatigué, parce qu'il avait passé la nuit à discuter. Forcément, il dormait le jour, comme nous. Si on ne dort pas la nuit, on dort un autre moment. Mais il savait partager, écouter. Et lui-même aurait aimé, en tant qu'être humain, quand il était sur Terre, il le dit, quand il est à Gethsémané, on approche de Pâques, bientôt on va aborder ces sujets-là, hein. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Jésus aurait aimé que ses disciples, Pierre, Jacques, Jean, là, qui faisaient les malins toute la journée, à savoir qui était le plus grand, qui était le meilleur, qui était le plus fort, qui allait être sur le trône dans le royaume de Dieu. Ce que Jésus aurait aimé, c'est qu'il soit à côté de lui à Gethsémané. Pas pour lui faire des sermons, pour lui tenir la main, pour lui passer une main sur l'épaule, pour être là. Il dormait pendant ce temps-là. Il faisait des rêves, des grands ministères qu'ils allaient avoir pour servir Dieu. Jésus aurait juste eu besoin qu'il soit à genoux à côté de lui. On est avec toi. On est là. Pour rien faire. Mais... Partager la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. C'est normal qu'on ait des préférences, qu'on ait plus de facilité dans nos relations les uns avec les autres. Jésus était plus à l'aise avec Jean qu'avec d'autres. Mais c'est pas pour ça qu'il a choisi Jean pour diriger l'Église, il a choisi Pierre. On peut avoir nos préférences, c'est évident, c'est même pas qu'on peut, c'est une réalité. Je suis pas le meilleur ami de tout le monde, c'est pas un problème, mais j'ai la même considération pour tout le monde. On a tous la même valeur. Et puis dans la diversité du corps de Christ, tout le monde va trouver ses meilleurs amis. C'est pas grave. Et on va avancer avec ça. Et il y a sans viser à ce qui est trop haut, laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Et je termine juste avec cette dernière phrase. Ne vous prenez pas pour des sages. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du tout un encouragement à la fausse humilité. Vous savez, cette horrible fausse humilité chrétienne. Il faut être moche, il faut être mal habillé et il faut penser qu'on est stupide. Alors là, Christ est content de nous. Quelle horrible idée! C'est pas du tout ce que la Bible dit, hein. David dit, quand il sera dans sa glace, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Mon âme le reconnaît et je me réjouis. L'humilité, c'est savoir que j'ai tort et Dieu a raison. Être sage à mes propres yeux, c'est quand je pense que j'ai raison alors que Dieu dit autre chose. Donc, lorsque Dieu dit, tu as ce don et je veux que tu le mettes en pratique, et que moi je dis, oh non, je suis pas capable. C'est de ça qu'on parle ici. je suis sage à mes propres yeux. Je pense être capable de déterminer ce dont je suis capable. Non, si Dieu t'a donné un don, tu es capable. Oui, mais je ne pense pas que je suis... Oublie ça. Dieu t'a donné ce don-là, va avec. Tu feras des erreurs, évidemment, il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreurs. Le but de la vie, ce n'est pas de ne pas faire d'erreurs, c'est de suivre Dieu. Et forcément, les gens qui suivent Dieu font des erreurs monumentales. Il y a des gens, peut-être, ils seront tout contents à la fin de leur vie. « Seigneur, moi, je n'ai fait aucune erreur. » C'est triste. « Sans moi que tu fasses... » Tu n'as fait aucune erreur, tu n'as rien fait, finalement. Hein? David a fait les pires erreurs possibles. Assassiner son meilleur ami pour piquer sa femme. Vous pensez qu'on peut faire pire? Ouais, on doit pouvoir trouver, mais c'est pas mal quand même. Hein? Mais David a fait des quantités de choses extraordinaires. Et il s'est gamélé de façon extraordinaire aussi. Il a essayé, il est tombé quelques fois, mais il a marché souvent. Paul a fait des choses monstrueuses aussi, mais Dieu l'a utilisé. Moïse, une catastrophe, hein? Mais Dieu l'a utilisé. Tous les gens qui font des choses avec Dieu, ben, ils vont casser des œufs, vont marcher un peu sur les pieds des autres, vont se tromper, vont faire des erreurs. Mais le but, c'est pas de pas se tromper. C'est d'aller de l'avant, avec ce que Dieu nous a confié, sans comparaison. Donc, ne soyez pas sages à vos propres yeux, ça veut dire, arrêtez de penser que vous savez. On sait rien. Et on a besoin que Dieu nous bouscule. Et puis, quand les choses viennent et nous dérangent, sachons reconnaître que Dieu peut penser différemment. Ce matin, je pouvais sentir, hein, on n'a pas commencé par les chants. Qu'est-ce qui se passe? On aurait dû avoir fini les chants, on ne les a pas commencés. C'est écrit où dans la Bible qu'il faut manger le dessert à la fin du repas? Ou au début? Ou la salade avant ou après? Ou le fromage avant? On a le droit de chanter après. On a le droit de prêcher avant. On a le droit de faire autrement. On est là pour vivre le corps de Christ, pas pour répondre à un programme qui a été établi quelque part il y a 2000 ans par je ne sais pas trop qui, pour faire le but. Enfin, ce qu'il faut, c'est que le but soit atteint. Qu'on puisse échanger, qu'on soit dans la présence de Dieu, qu'on écoute sa parole, qu'on s'encourage, qu'on aille de l'avant, que son nom soit proclamé, qu'il y ait un témoignage sur là. Ça se fait d'une façon, ça se fait d'une autre. Ça nous dérange. Et c'est bien que ça nous dérange. On est obligé de réfléchir. Pourquoi je fais ça tous les jours de la même façon? Je peux le faire autrement. Donc, c'est pas dans un esprit de bousculer ou d'embêter, mais ne soyons pas sages à nos propres yeux. Dieu a trouvé bon de faire les choses différemment, c'est super. Et il est gentil, il le fait doucement, hein, il ne change pas tout d'un coup, comme ça, parce qu'il nous connaît. Mais allons de l'avant avec ça. Alors, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te demandons que tu nous aides à prendre conscience des dons que tu nous as donnés et que tu nous permettes, motivés par ton amour, de le vivre pleinement, de nous y jeter dedans avec toute notre force, toute notre énergie, en te demandant ce qu'il faut pour y arriver, Seigneur. Et puis quand nous tombons, quand nous ratons, quand nous échouons, que nous sachions nous tourner vers toi pour nous relever, demander pardon, confesser et repartir avec toi, Seigneur. Et merci pour ta tendresse. Merci pour l'affection que tu veux que nous ayons les uns pour les autres. Parce que tu veux nous amener plus loin à vivre le corps de Christ réellement, les uns avec les autres. Amen. Et je vous laisse avec deux petites questions. Pas de vérification, mais pour méditer. Hein? Est-ce que je suis déterminé avec la mise en œuvre de mes dons? Ça, c'est dans un sujet. Et l'autre? Quelle est la place pour le partage dans ma vie? Voilà, vous pouvez y réfléchir et méditer. Il n'y aura pas d'interro écrite dessus. Merci.